la grande table. Bonjour à tous, comme un lundi de retour à Paris, comme un bateau qui prend l'eau avec l'historienne Sophie Vaniche qui publie Le radeau démocratique, une chronique de ces temps incertains, un recueil de ses chroniques pour réfléchir au présent et s'engager dans ses luttes. Comment aujourd'hui se réapproprier notre souveraineté démocratique? Spécialiste de la Révolution française, Sophie Vaniche nous rejoindra après le journal d'Antoine Mercier. Le peuple comme un leitmotiv. Sonder la société française à l'heure des populismes, c'est aussi au fond à cet exercice que se prête la caméra de Lucas Bellevaux, avec chez nous le réalisateur signe un film politique, une réponse au chant des sirènes FN. Il est notre premier invité jusqu'à midi et demi. Enfin, nous y étions en direct avec vous jeudi et vendredi. Retour avant midi et demi avec Michel Simon sur le palmarès de la Berlinale qui a refermé ses portes ce week-end après avoir couronné de l'Ours d'or une romance hongroise On Body and Soul. La grande table, corps et âme, c'est tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Comme un slogan du Front National. Voilà qui explique un titre. Chez nous, sort en salle mercredi, scénario coécrit avec Jérôme Leroy et inspiré de son polar Le Bloc, qui avait déjà fait grand bruit en 2011 à sa sortie. La question sociale et politique, une fois encore au cœur de cette fiction de Lucas Bellevaux après Pas son genre et déjà avec Émilie Dequesne. Raconter des histoires, c'est ce qu'il aime et il s'y attelle une fois encore avec celle d'une jeune infirmière aux petits soins avec ses patients, qui élève seule ses enfants, qui s'occupe aussi de son père, ancien métallo Coco, et qui se laisse embringuer par le bloc patriotique pour être à la tête d'une liste conçue pour offrir un ancrage territorial sur mesure à la présidente de ce parti nationaliste, Agnès Dorgel. Bonjour Lucas Bellevaux.
Bonjour.
Alors ça y est, le film débarque en salle mercredi, depuis le temps qu'on en parle quand même. Il était temps, non ?
Oh, on n'en parle que depuis 2 mois, c'est pas... Et puis on n'a pas tellement parlé du film en fait, on parlait beaucoup de la bande-annonce jusque-là.
Et bien justement, on va l'écouter.
Bonjour, je m'appelle Pauline Duet, je suis infirmière à domicile. Je viens de trouver une de mes patientes décédée chez elle.
Ça va ? Pas trop dur ?
Ça fait partie du métier, je fais avec.
Elle n'a jamais quitté Hénard. Elle y est née, elle y travaille, ses parents sont nés là aussi, ses grands-parents. Des mineurs, des métallos, tous. C'est une fille simple, courageuse, intelligente. Tout le monde la connaît et tout le monde l'aime.
Elle est mignonne en plus, ça gâche rien.
Salut.
C'est dingue ce que tu ressembles à ta grande sœur, toi.
C'est pas ma sœur, c'est ma mère.
Ah bon, bah on dirait pas.
Tu pourrais venir dîner un soir ?
Je voudrais te parler. On m'a chargé de trouver un candidat pour les municipales et j'ai pensé à toi.
Et ça serait sur une liste du bloc patriotique ?
C'est quelqu'un comme toi que les gens attendent, proche d'eux. Tu trouves que c'est une fasciste ?
Elle, c'est pas la même chose. Et puis c'est une femme.
Je veux changer les choses, c'est pas pareil.
Tu veux changer quoi avec ces gens-là ?
C'est maintenant ou jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer.
Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser.
On préfère que vous veniez plus.
Et pourquoi je viendrai plus ?
Parce que ça va devenir chaud pour vous.
On est presque au pouvoir. Ça fait 40 ans que je me bats pour ça.
On aura notamment reconnu la voix d'Émilie Dequesne et celle d'André Dussolier dans ce film Chez nous qui sort donc en salle mercredi, dénoncer la supercherie du populisme. Vous visiez haut, Lucas Bellevaux, vous tapez fort, sans grand discours, avec un film très humain entre engagement et sentiment. Un cinéma populaire peut pour vous aujourd'hui contredire des discours populistes ?
Il faudrait, et c'est important, peut-être que nous cinéastes on a un peu délaissé ce terrain-là depuis quelques années, alors que c'est une tradition dans le cinéma depuis toujours, ne fût-ce que le cinéma américain des années 30 a été le cinéma du soft power, quelque part c'était un cinéma militant pour la démocratie, pour une forme de civilisation, et puis là depuis quelques années on avait un peu oublié que c'était aussi notre rôle de parler et de politique et de société.
Et par le biais de personnages que vous incarnez, par le biais de l'humain, c'est ça qui fait un cinéma populaire pour vous ? C'est ce qui le différencie d'un cinéma purement politique ? voire d'un cinéma de propagande, puisque le terme a été employé.
Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la complexité. L'intérêt de la fiction et donc des histoires, c'est de raconter la jonction qu'il y a entre l'intime, l'humain, et puis le politique et la société. Et c'est là où il se passe des choses intéressantes que la fiction peut raconter. On sort du slogan.
Alors c'est un film qui dérange et qui a déjà dérangé depuis l'annonce de sa sortie il y a quelque temps, alors que le film n'était même pas encore en salle, même pas visible, peut-être même pas terminé.
Il n'était pas terminé.
Lucas Bellevaux. Objectif atteint, oui, la preuve, si on s'en fie aux réactions des responsables du Front National. Une fois encore, vous allez l'entendre, c'est Florian Philippot.
Bon, je vais peut-être être obligé de le voir, quoi, que je pense que d'après la bande-annonce que j'en ai vue, ça m'a l'air d'être un joli navet. Mais au-delà de ça, au-delà de la qualité du film, je trouve ça, je vais vous dire, proprement scandaleux. Qu'en pleine campagne présidentielle, je crois exactement à 2 mois du vote, hein, ce sera le 22 février que ce film sortira, on sorte dans les salles françaises un film qui est clairement anti-Front National. Je cite le réalisateur qui nous dit, le film décrit cette, je le cite, hein, cette parole qui se libère, disséminant une odeur abjecte qui dérange de moins en moins. Donc c'est clairement affiché anti-Front National.
C'est la liberté de création.
Oui, mais bien sûr. Mais on est à 2 mois de l'élection présidentielle et les films français sont financés par le contribuable français, donc en partie par beaucoup d'électeurs du Front National.
Bon, en réalité, des films politiques à quelques mois d'une élection, il y en a déjà eu un certain nombre et les partis concernés étaient très différents. Le Baron Noir, qui était une fiction télé diffusée sur Canal post-régional en 2016 et qui tapait fort sur l'image du Parti socialiste dans cette région justement du Nord. La conquête sur l'ascension au pouvoir de Nicolas Sarkozy, sorti en 2011, soit même pas un an avant la présidentielle de 2012, l'exercice de l'État de Pierre Scholler, qu'on peut éventuellement aussi citer. Est-ce que c'est un film anti-FN, ce que vous avez réalisé pour vous, Lucas Bellevaux ?
C'est un portrait objectif d'un parti populiste, européen, en l'occurrence français, mais c'est assez objectif. Le problème du FN, c'est quand on fait un parti, un point de vue objectif, eh ben, ça devient anti, parce qu'ils sont pas très ragoûtants, quand même. Enfin, le discours, en tout cas, est très, 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 très dur, au-delà de l'image qu'il donne aujourd'hui très dédiabolisée, comme on dit. Il reste quand même un fond de sauce, et plus que ça, un cœur idéologique, très très dur. Et à part ça, autour, c'est de la vacuité absolue. Le programme économique, notamment, est une... Enfin, on se demande comment ils osent proposer ça. Leurs références, Poutine, Trump, voilà, c'est censé être nous faire rêver. C'est quand même pas très brillant.
C'est pas évident de mettre des images, justement, sur une stratégie de communication, quelque part. Parce que c'est une guerre d'images, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui sur la scène politique. D'ailleurs, il faut quand même dire que c'est un film qui, en creux, est aussi assez dur, assez critique envers la gauche. La gauche dont on voit clairement qu'elle a, en tout cas la gauche social-démocrate, qu'elle a clairement abandonné ces territoires.
Hein. Le populisme, en général, ne prospère que sur l'échec des autres. Donc, effectivement, la gauche, mais les partis de droite... démocratique, je dirais, n'ont pas été très brillants non plus. Ce qu'il y a, c'est qu'on voit depuis 20 ans, on se sert de l'Europe comme bouc émissaire, le libéralisme est en train de gagner un peu tous les programmes, et donc il y a une partie des gens qui se sentent abandonnés, même s'ils le sont objectivement... pas complètement, mais un peu quand même. Et donc, on oublie ce que c'était le projet quand même républicain, social-démocrate, européen, qui est quand même la paix sociale, la paix civile et le bien-être de tous. C'est ça l'objectif. Et donc, il faut travailler vers ça. Et les autres se sont un peu enfermés dans des batailles purement politiciennes et pour prendre ou garder le pouvoir.
Lucas Bellevaux, comment raconter sans juger, comment dénoncer sans stigmatiser?
C'est pas si difficile, en fait. Faut aimer les gens, faut les écouter, faut les entendre, faut chercher les contradictions, voir ce qui nous rapproche, là où on peut être d'accord avec eux parfois, partager leur colère. Moi, je me sens pas très éloigné des personnages que je filme.
C'est-à-dire que vous les aimez, même s'ils votent Front National, ce qui n'a pas l'air d'être effectivement la couleur de votre bulletin de vote.
Mon bulletin de vote, il est belge déjà, donc
c'est vrai.
Ça complique tout. Mais oui, je les aime bien parce que c'est des gens que je connais, c'est le milieu où j'ai grandi, c'est voilà, je les connais ces gens. Et d'une manière générale, j'aime les gens moi. Donc après, les contradictions m'intéressent parce que le vote populaire Front National est quand même un vote extrêmement paradoxal, c'est-à-dire que les gens votent contre eux à terme, sur une colère, sur le côté bon sens populaire, on est prêt à engager 5 ans de la vie d'un pays dans des voies absurdes.
Oui, un vote comme la manifestation d'un ras-le-bol, d'un cri de colère quelque part, et puis aussi ce besoin de changement dans des régions qui sont de plus en plus sclérosées, où rien ne se passe, où rien ne bouge.
Oui et non, parce que le Nord, le Pas-de-Calais, enfin tout le Nord et l'Est de la France, c'est des régions qui en un siècle et demi se sont réinventées plusieurs fois quand même. Il y a eu 2 guerres mondiales qui ont tout rasé, on a reconstruit 2 fois, c'est une région qui se réinvente sans arrêt. Ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué, les transitions sont dures, c'est des chocs sociaux et économiques à chaque fois, mais je ne pense pas que la région Nord ne bouge pas. Elle bouge bien, mais il y a des moments de crise intense où les gens en ont ras-le-bol, effectivement, parce que le temps politique ou le temps de la transformation sociale n'est pas le temps individuel. Quand on a faim, c'est maintenant. Quand on a froid, c'est tout de suite. Et on n'a pas 10 ans à attendre. Et quand on n'a pas de boulot, c'est pareil.
Et ça peut durer parfois. Un paysan qui trouve un obus en labourant son champ, des plans de pavillons et de petites maisons en briques qui se succèdent, une boucle d'autoroute. Vous ne perdez pas le Nord, Lucas Bellevaux, dans ce film. Après Arras, ville décor de Pas son genre, votre dernier film, Hénard, petite commune du Pas-de-Calais, centre de toutes les attentions médiatiques et politiques à la manière d'Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen, vitrine historique du Rassemblement Bleu Marine, le bassin minier. Pourquoi cet attachement à cette terre? Vous l'avez rappelé, moi pas, pardon, vous êtes un réalisateur belge, vous n'êtes pas très loin de chez vous, mais vous êtes quand même chez nous, pour reprendre le titre de votre film. Pourquoi cet attachement au Nord français, au Hauts-de-France, oui. Faut-il dire maintenant?
Vous savez, chez vous, c'est chez moi maintenant. Ça fait 40 ans que je vis là, donc je me sens un peu concerné. Pourquoi le Nord? Parce que, encore une fois, on parle de 2 FN, il y a le FN du Sud, le FN du Nord. Celui qui m'intéresse le plus, qui m'intrigue en fait, qui me pose question, c'est le FN du Nord, parce que c'est un vote majoritairement disons prolétaires, en tout cas des gens qui travaillent, que ce soit les classes moyennes ou les ouvriers ou les chômeurs, et que, encore une fois, c'est un vote que je ne m'explique pas, parce que c'est contre leurs intérêts propres. Donc je comprends la colère, je comprends tout ça, l'envie de changement, l'envie que ça aille plus vite. Mais il y a quand même une question profonde que j'arrive pas à résoudre au-delà de cette colère. Le Nord, parce que sociologiquement c'est très proche de moi et que ça m'intéresse, voilà.
Ça vous intéresse, mais on sent aussi quand même une proximité avec le pays, la région dans laquelle vous avez grandi. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les slogans qui sont scandés dans les manifestations, on entendait on est ici chez nous, on veut être ici chez nous. Il y a aussi, on veut pas ressembler à Molenbeek. Il y a cette comparaison qui est faite, cette proximité, si vous êtes sur la question du vote FN.
Oui, mais ça, c'est l'histoire de Molenbeek, c'est assez récent. La France connaît Molenbeek depuis 2 ans. Et hélas, l'histoire politique belge est très, très différente de ce qui se passe ici. Il y a des dérives, il y a d'autres types de dérives et ça serait une autre émission, je pense. On est chez nous. C'est chez nous aussi. Ce n'est pas que les électeurs du Front National qui sont chez eux. Il y a une histoire de la République qui dure depuis, la République depuis 1789 avec des intermittences. Mais c'est quand même ça, l'histoire de la France moderne. On a l'impression que le on est chez nous, en général, fait référence à la France de l'Ancien Régime. Et qui n'est pas la France qu'on aime, a priori. Il y a eu du changement. Et ce chez-nous-là, il est partagé quand même, a priori, par 75% des Français qui ne votent pas pour le FN, qui sont attachés aux valeurs démocratiques, à la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est quand même... Victor Hugo a écrit dessus, et d'autres. Et on ne peut pas laisser récupérer les valeurs de la République, les valeurs de la Révolution, par ce parti qui n'aime pas cette période-là de l'histoire de France.
Alors, dans votre film, Lucas Bellevaux, il y a de longues discussions aussi entre amis. On retrouve dans les personnages de chez nous différents profils. La copine gauchiste, le médecin bourgeois, très catholique, proche donc de ce parti patriotique, le paysan qui laboure son champ, l'ancien métallo qui est aujourd'hui à la retraite, ancien cégétiste, communiste et qui paye cher ses années à l'usine. justement des longs débats autour de barbecue où l'on parle notamment politique. Dans cette stratégie dite de dédiabolisation, on sent qu'il y a aussi du côté des électeurs, du côté du peuple, du côté des citoyens, une parole qui est en train de se libérer. Et ça, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que, comme dans votre film, le vote Front National aujourd'hui n'est plus tabou? Écoutons d'abord un extrait de Chez nous.
Dis donc, vous avez pas l'air de rigoler beaucoup.
Ah, je lui racontais qu'ils avaient encore cambriolé chez Robert.
Oh merde. Qui ça, il?
À ton avis?
Ah, j'ai pas d'avis, moi.
Ah, t'as pas d'avis?
Non.
Moi, j'en ai un. J'ai l'impression qu'il faudrait aller voir du côté de la cité Léo Lagrange.
Mais pourquoi?
Comme ça, une intuition, statistique. De toute façon, ce que j'en dis, j'y vais jamais à Léo Lagrange, j'ai pas le visa.
Je te signale qu'ils sont en français que toi.
Ah bah ça, c'est à voir, ma grande. Hein. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ils le sont depuis moins longtemps. Hein.
Ah, donc moi, je suis pas une vraie Française parce que ça fait que 60 ans que mes grands-parents sont arrivés ici, hein? Je suis une hugo de merde.
Oh, ça va, Nada, pas aujourd'hui, c'est dimanche.
Parce que le dimanche, on peut être raciste.
Bah, je suis pas raciste, j'ai pas dit les cris.
Lucas Bellevaux, les déjeuners, le dimanche, ça se passe comme ça?
Oui, et là, ça se passe aussi comme ça. On est dans une période tendue. On est dans une période où les discussions ne peuvent plus être raisonnées ni raisonnables. On est face quand même à un parti qui est dans la brutalité, dans une espèce de manichéisme. On est avec lui ou contre lui. Il a besoin de désigner des ennemis. Il n'existe qu'à travers une opposition, qu'à travers des ennemis désignés. Alors les ennemis changent selon les périodes. Il y a eu des périodes où c'était les Juifs, après c'est les Arabes, après c'est les migrants, après les mots changent, mais il y a toujours un ennemi. Il y a les élites. Alors les élites, c'est quoi les élites? C'est de temps en temps c'est la culture, à d'autres moments c'est les journalistes, parfois c'est tout ensemble, mais c'est un parti qui a besoin de fractionner la société pour exister.
Comment s'est passé le tournage, en fait, sur place? Vous avez pu associer les gens du coin, entre
bien
guillemets?
Sûr, ouais. Bien sûr. Ah bah oui, on est resté là-bas.
Vous étiez le bienvenu?
En tout cas, on n'a pas eu de problème. C'est-à-dire que même maintenant, quand on va présenter le film pour des débats dans la région Nord, s'il y a des électeurs du Front National dans la salle, et je pense qu'il y en a, on les repère un petit peu par des mouvements d'épaules ou de tête pendant les débats, ils s'expriment très très peu. Ce qui est dommage, parce que moi j'ai envie de discuter avec eux. Mais pendant le tournage, non, on n'a pas eu de... Personne ne s'est manifesté.
Parce que se pose un peu quand même toujours la question pour vous, le cinéaste, vous qui faites passer des émotions et des histoires en images, celle de l'image justement des gens et de la région que vous allez en donner, ne pas être trop misérabiliste, ne pas se moquer. On se souvient des critiques qui ont été faites à l'encontre de Bruno Dumont avec son petit quinquin ou encore Maloute, très critiqué pour l'image qu'il donnait de la région, par ce burlesque peut-être qu'il essayait de traduire. Est-ce que ça, c'est des questions que vous posez, vous dites, bon, je ne suis pas chargée de communication, de toute façon, je raconte mon histoire telle que moi je l'aperçois, et je ne pense pas à la réception qu'on va avoir de mes images et de mon film.
Non, non, c'était important de montrer une image du Nord
fidèle.
Plus fidèle, qui n'est pas un pays d'alcoolique, particulièrement, qui n'est pas un pays de misère tout le temps et partout. J'ai essayé de retrouver une espèce de tissu sociologique à peu près juste.
Le plus juste possible, au plus proche de ce que vous avez vécu. Il est question de deux autres sentiments, de deux autres destinées aussi dans votre film. On n'a pas parlé des personnages. Philippe Berthier, qui est le médecin, alors pas facho, hein, bien plus que ça, comment le décrire, incarné par André Dussolier. Voilà, il a d'ailleurs un portrait de Charles Maurras hein, dans son cabinet, qui est lui l'homme qui va essayer de faire basculer cette jeune infirmière, Pauline, dans son combat. Il estime qu'il est trop vieux, lui, pour aller se représenter. Il cherche des visages jeunes, des visages frais, des personnalités aimées aussi, hein, pour pouvoir se mettre sur cette liste de ce parti d'Agnès Dorgel. Et puis, il y a le personnage de Stéphane Stankoviak, qui, lui, est un militant, alors peut-être la plus inspirée du roman que Le Bloc, hein, qui vous a aussi guidé dans cette narration, dans ce film. Est-ce qu'il y a une rédemption possible pour ces gens-là? Votre film semble dire que non.
Moi, je ne crois pas à la rédemption en général. Je crois à la justice. Donc voilà, c'est à la justice de faire son travail. Ensuite, il peut y avoir des prises de conscience, bien sûr. C'est vrai que Stéphane, il est inspiré du Stéphane du roman de Jérôme Leroy. Et Jérôme, quand il a fait signer, quand il allait présenter son livre dans les librairies qui faisaient des séances de signature, il a rencontré ce personnage-là, notamment au Havre, où un type est venu le voir en disant « Vous savez, Stéphane, c'est moi ». J'ai été ce mec-là. Mais maintenant, je ne le suis plus. J'ai rencontré une femme que j'aime, j'ai des enfants et je ne me reconnais plus dans ce qu'il était. Et puis, il discute comme ça. Et après 10 minutes, le type lui dit « Mais vous savez, j'étais sincère ». Et la sincérité n'est pas une excuse. C'est pas une rédemption non plus. C'est que tout à coup, les gens n'y croient plus. Les gens sont fatigués. Les gens, parfois, se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs et puis ils vivent avec ce souvenir-là. Mais ils n'ont rien. Voilà, il n'y a pas eu de rédemption, non.
Échange entre Philippe Berthier et Stéphane Stankoviak.
C'est ce que tu me veux? T'as pas une petite idée?
Tu me prends pour une bille? Ça fait des semaines que les mecs du cercle me tournent autour, tu crois que je les ai pas repérés?
T'en as parlé à Pauline?
Pourquoi faire? Ça lui plaît, elle y croit, elle est heureuse, pourquoi j'irais foutre la merde? T'inquiète pas, je me ferai discret jusqu'aux élections.
Ça suffit pas.
Je suis plus un problème. Le combat, la lutte, tout ça, c'est fini pour moi, j'arrête. J'ai plus envie, je suis fatigué. J'ai retrouvé la femme que j'aime. Fin de l'histoire.
L'histoire n'a pas de fin, Stéphane. Elle laisse des traces. Tu seras toujours ce que t'as été. Ce que t'es aujourd'hui, ce que tu seras demain, tout le monde s'en fout. Pauline est indissociable d'Agnès. Et t'as pas ta place sur la photo. Ni maintenant, ni après les élections.
Luc Appelvaux, on a parlé rédemption, on n'a pas parlé trahison. Qui a trahi qui, finalement? Et là, on cite le père de Pauline qui lui dit « Tu trahis ta famille, tu trahis ta classe », puisque lui était communiste et d'une famille de communistes. Et qu'elle part vers ce front national biste, vers ce parti patriotique.
Oui, probablement, elle trahit, mais elle trahit de bonne foi, je dirais, comme beaucoup d'électeurs du Front National. C'est-à-dire qu'elle y va par générosité, elle y va parce qu'elle est confrontée à la dureté sociale, à la dureté physique aussi, puisqu'elle est infirmière, elle soigne les gens, elle en prend soin, comme on dit. Elle est confrontée à leur souffrance, à leur douleur, et elle voudrait faire plus. Et elle se dit qu'il est grand temps de changer des choses, et que si elle peut s'engager, et elle a l'impression que c'est le seul parti qui veut changer des choses. Parce qu'elle est née dans les années 80, et qu'il y a toute une génération où la transmission de l'histoire politique ne sait où. L'histoire de la lutte sociale ne s'est plus faite. L'histoire a été mal transmise à cause des déceptions, probablement aussi. Et donc, elle y va de bonne foi. Il va lui falloir du temps pour se rendre compte du chemin qu'elle a pris.
Luc Appelvaux, le film se termine comme il a commencé. Pourquoi ?
Parce que l'histoire est en marche, et que rien n'est fini encore, et que qu'il y en a pour longtemps. Mais c'est comme l'histoire de l'obus. Le passé remonte à un moment et sort de terre, et que voilà, cette histoire-là n'est pas finie.
Alors pour camper, le personnage d'Agnès Dorgel, interprété par Catherine Jacob, sorte d'hologramme composite de Marine Le Pen, vous dites vous êtes appuyé sur des marqueurs forts comme la blondeur, une certaine rudesse dans l'expression et des éléments de discours et des postures récurrentes recensées par des sémiologues, dont Marine Le Pen, prise au mot de Cécile Alduy. Beaucoup de livres sortent en ce moment, je vous en indique deux. Luc Appelvaux, L'illusion nationale de Valérie Gounet et Vincent Jarousseau, et Dans l'enfer de Montretout, un livre signé Olivier Beaumont, le premier paru aux Arènes, le deuxième chez Flammarion. Chez nous, sort en salle mercredi. Vous restez avec nous, Luc Appelvaux. On va parler de cinéma pendant les quelques minutes qui nous restent. À 12h25 sur France Culture, grande table rouge jeudi et vendredi en direct de Berlin. Retour tout de suite sur le palmarès de la Berlinale, rendu samedi par le jury présidé cette année par Paul Verhoeven.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
124 femmes sont présentes dans le programme de la Berlinale. Que ce soit comme directrice de la photo, productrice ou encore réalisatrice. Et nous avons 4 femmes réalisatrices en compétition. Donc on peut dire que cette année, nous sommes sur une bonne voie.
Une sélection féminisée, la polonaise Agnieszka Hollande, l'anglaise Sally Potter, la hongroise Ildikó Egyedi et la dernière entrée, la portugaise Teresa Villaverde, avec un film étonnant, Colo.
Une sélection féminisée, disait Dieter Koslik, le directeur du festival, et un palmarès tout aussi féminin. Ours d'or pour le film On Body and Soul de la réalisatrice hongroise Ildikó Hegyedi. L'Afrique ensuite récompensée avec le grand prix du jury pour Féliciter, une histoire de femme, là encore, du franco-sénégalais Alain Gomis. Ours d'argent du meilleur réalisateur pour Aki Korismaki, pour L'autre côté de l'espoir. Voici notamment aussi le prix Alfred Bauer pour Pocotte d'Agnieszka Holland, deux réalisatrices donc en tête du palmarès pour un festival qui a fait la part belle aux femmes derrière et devant la caméra. Avec nous, Michel Simon, bonjour.
Bonjour.
Grande table ronde avec vous jeudi pour faire le tour de cette sélection. Et vous avez vu juste, une fois encore, vos deux favoris, Aki Korismaki et Ildikó Hegyedi, la hongroise, ont été récompensés. Un film très étrange, disiez-vous, de On Body and Soul, d'une sensibilité très aiguë. Vu d'ensemble, aujourd'hui, de ce palmarès, vous êtes satisfait?
Écoutez, on a l'impression que Paul Verhoeven, qui avait été écarté du palmarès de Cannes en même temps que Loving, Aquarius, Tony Erdmann, Julieta, c'est-à-dire les meilleurs films du Festival de Cannes, avait été totalement écarté par le jury, il a dû réfléchir aux responsabilités d'un jury parce qu'il a fait un très bon palmarès. Et ce palmarès, évidemment, il avait à choisir, d'après le sentiment général des festivaliers, entre le film hongrois d'Ildikó Hegyedi, qui avait déjà eu la caméra d'or à Cannes il y a 15 ans, et puis le film de Korismaki, probablement le plus beau film du festival. Il a choisi de plutôt faire sortir de l'ombre une réalisatrice hongroise qui avait été un peu oubliée pour un très très beau film, et de donner le prix de la mise en scène à Korismaki, qui, on le sait, est le plus beau des prix, puisque on ne dit jamais que le tableau le mieux peint n'est pas le plus beau tableau. Quand le film est la plus belle mise en scène, ça veut dire que c'est le meilleur film. Donc finalement, c'est tout à fait équitable. C'est un palmarès qui me satisfait en tout cas personnellement. Le prix du scénario, par exemple, à Une femme fantastique de Sébastien Lelio, le film chilien. L'actrice magnifique du grand film de Hong Sang-soo, Une femme seule sur la plage, de Kim Min-hee, qui a été d'ailleurs la compagne du metteur en scène Hong Sang-soo. C'est un peu une histoire autobiographique, très beau. Le prix d'interprétation masculine, je suis plus sceptique. Je pense que Georges Friedrich, dans le film Bright Nights, le film allemand, n'était pas au niveau de Reda Kateb dans Django, qui aurait mérité le prix d'interprétation masculine. Mais dans l'ensemble, c'est tout de même un palmarès tout à fait satisfaisant. Il n'y a que le prix Alfred Bauer, qui est un prix qui est décerné à un film qui ouvre de nouvelles perspectives, qui a été donné à Agnieszka Holland, alors que vraiment c'est un film extrêmement pesant, démonstratif, qui n'ouvre absolument aucune perspective. Mais dans l'ensemble, on connaît les palmarès, ils sont souvent très décevants, et on peut dire que c'était une belle berlinale et que c'est un palmarès qui confirme, disons, la qualité de cette compétition.
Merci beaucoup, Michel Simon. En tout cas, on se rend compte, à travers ces festivals, ça donne aussi vraiment envie d'aller au cinéma, et on attend avec impatience de voir certains des films évoqués arriver sur nos écrans dans les prochains mois. Prix du meilleur documentaire aussi pour Ghost Hunting, sur le traumatisme d'anciens détenus palestiniens, un second long métrage de Raed Andoni dont on aura l'occasion de vous reparler dans la grande table à coup sûr. Dans les sélections parallèles Panorama, deux films récompensés, prix du public ex aequo pour la fiction Insiriated du Belge Philippe Van Leuve et le documentaire I Am Not Your Negro du réalisateur haïtien Raoul Peck. Deux films dont on vous a parlé jeudi et vendredi dans la grande table. À noter que le Raoul Peck va concourir aussi bientôt dans la catégorie meilleur documentaire aux Oscars. À réécouter les entretiens avec la comédienne Yamabas qui est dans Insiriated et avec le réalisateur Raoul Peck sur la page de la grande table sur franceculture.fr. Un grand merci Lucas Bellevaux. Demain à votre place, encore un Belge qui fait craquer l'hexagone, Stéphane de Groot sera notre invité.